Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans On se dit tout, l'émission où on prend le temps de se parler. On choisit chaque jour un thème et vous allez tout de suite comprendre de quoi on parle aujourd'hui.
Quentin, toi tu as 10 ans, tu es déjà en classe de 5e.
Oui.
T'es pas fier, Quentin, d'avoir 156 de QI ?
Non, le QI, bon, bah, c'est simplement du potentiel, hein. Ça veut rien dire, hein. Si on a beaucoup de potentiel mais qu'on sait pas l'utiliser, ça sert à rien de l'avoir.
Extrait d'une émission de France 3 et on va plonger aujourd'hui dans un univers qui a souvent suscité toutes sortes de réactions, farfelues, parfois méchantes. On mettra ça sur le compte de la méconnaissance puisqu'on s'intéresse aux enfants précoces, surdoués, enfants intellectuellement précoces, au QI supérieur à la moyenne. Ça concerne 450 000 enfants scolarisés aujourd'hui, soit environ un enfant par classe, c'est pas anodin. Mais l'école, justement, parlons-en, comment elle peut s'adapter à ces enfants qui ont envie d'apprendre plus vite, qui ont besoin d'avancer plus vite? On va en parler avec vous qui avez un enfant précoce ou qui êtes vous-même un précoce qui a bien grandi. Venez nous rejoindre pour nous parler de votre histoire, votre parcours, vos difficultés parfois, les murs face auxquels vous vous êtes heurté et puis les belles histoires heureusement aussi parce qu'il y en a. 0810 055 056, on se dit tout avec aujourd'hui le docteur David Gourion, co-auteur avec Séverine Leduc du livre Éloge des intelligences atypiques aux éditions Odile Jacob. Bonjour David Gourion.
Bonjour.
Ça veut dire quoi les intelligences atypiques? Qu'est-ce qu'on veut dire derrière ce mot?
Bien, le petit Quentin dont vous avez passé le témoignage au tout début le dit lui-même, le QI veut rien dire. C'est un chiffre, on mesure des choses de façon comme ça. La question, c'est ce qu'on en fait. Et en fait, il y a plein de formes d'intelligence. L'intelligence ne peut pas se laisser enfermer. On a parlé, vous savez, d'intelligence émotionnelle. On a parlé d'intelligence sociale. Donc, il y a plein de façons, en fait, d'être intelligent. Et la façon dont un enfant ou un adulte qui aura justement une intelligence atypique différente dans sa façon d'appréhender le monde, d'interagir, peut parfois poser aussi des problèmes, peut poser aussi des questions. Et c'est dans ce livre ce que nous avons voulu aborder avec Séverine Leduc justement, et on peut être différent et fonctionner très bien aussi.
C'est vrai que parfois on peut se dire waouh c'est génial, mais parfois c'est aussi un parcours semé d'embûches et on va en parler avec vous. N'attendez pas pour nous appeler, c'est maintenant, le standard est ouvert et c'est parti pour On se dit tout pendant une heure.
Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
Ce n'est pas parce qu'on est un enfant intellectuellement précoce qu'on est forcément en échec scolaire. Ce n'est pas parce qu'on a un enfant précoce qu'on est un parent qui veut se mettre en avant. Ce n'est pas parce qu'on a un enfant à haut potentiel que la vie est plus cool et que c'est une chance. On en parle avec vous qui avez cette particularité, vous aussi, un QI au-dessus de la moyenne par exemple. Racontez-nous comment vous avez grandi, votre parcours scolaire, les réflexions, parfois pas toujours très bien comprises, de vos camarades de classe et du corps enseignant. Et puis c'est peut-être votre histoire à vous qui avez un enfant précoce, intellectuel. Actuellement, 0810 055 056 pour nous rejoindre avec le médecin psychiatre David Gourion, co-auteur d'Éloge des intelligences atypiques aux éditions Odile Jacob. Et un très beau témoignage pour démarrer cette émission sur la page Facebook de France Bleu. Gaëlle nous dit quel parcours du combattant d'avoir un enfant à haut potentiel ou d'être un enfant haut potentiel. Certains croient que c'est super, d'autres pensent que c'est de l'ego de parents surdimensionnés. Certains n'y comprennent rien. Bref, ce n'est pas de tout cela. En tant que parent, nous sommes abandonnés à nos questionnements, nous doutons. Ne désespérez pas, les parents, ce n'est ni une tare ni une maladie, juste une complémentarité. Écoutez votre enfant, faites-lui confiance, il va vous surprendre et vous pousser dans vos retranchements. C'est un joli témoignage de maman.
Oui, magnifique, et ce mot de complémentarité est très joli. Alors, parcours du combattant, je note ça aussi. Vous savez, je pense que ce qui fait la beauté de notre société, c'est la différence, c'est la diversité. Je vais prendre l'image d'une forêt. Ce qui fait qu'une promenade dans une forêt est belle, finalement, c'est que tous les arbres sont différents. Il y en a des grands, des petits, des espèces, des essences différentes. Et je pense qu'il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que nous sommes une société qui est très homogène et qui a tendance, que ce soit à l'école ou dans le monde de l'entreprise, à avoir un moule, un modèle un peu universel, comme si tout le monde, comme si tous les enfants, comme si tous les adultes fonctionnaient de la même façon. Or, c'est bien pour 80-90% des gens, mais pas pour les 10%.
Pas pour les autres, ouais.
Et ceux-là sont souvent assez malheureux. Donc, ce livre, c'est aussi un plaidoyer pour une société plus tolérante et plus ouverte à la différence.
On va accueillir tout de suite Caroline en Isère. Bonjour Caroline.
Oui, bonjour.
Votre fils a 31 ans, il a été diagnostiqué zèbre. Alors ça, c'est un mot dont on entend beaucoup parler, les zèbres. Aujourd'hui, c'est quoi exactement, Caroline?
Voilà, qui se sentent mal dans la société actuelle, qui ne fonctionne pas spécialement comme les autres, qui voilà, qui ont une forme de, comment dire, qui s'en sentent pas toujours à l'heure, pas compris. Voilà, je le vis un peu comme ça pour lui.
Il a été diagnostiqué récemment ou ça a été plus tôt quand il était petit?
Non, justement. C'est maintenant.
Mais vous sentiez cette intelligence différente qu'avait votre fils?
Pas du tout. Justement, et je voulais savoir si... Comment dire, je vois qu'il se sent mal. Souvent, il est sensible. Et dans les conversations avec, par exemple, avec ses copains, il n'est pas toujours sur la même longueur d'onde.
Ça, on le voit beaucoup dans le livre, hein, les discussions entre des enfants d'un même âge. Il y en a un qui a besoin de parler beaucoup, avec beaucoup de détails, et l'autre en face ne comprend pas toujours. Mais pourquoi il parle autant et qu'est-ce qu'il nous raconte, en fait, hein?
Oui, alors, madame, qu'est-ce qui l'intéresse, votre enfant? Quels sont ses centres d'intérêt?
Le sport.
Oui.
Le sport. Et quelquefois, il se renferme.
D'accord.
Il reste seul et il lui semble qu'il n'est pas compris dans ses échanges avec, parce qu'il a quand même, il a des copains.
Oui.
Mais dans ses échanges avec le copain, il semble qu'il n'est pas toujours compris, qu'il est sur une autre planète, pas sur une autre planète, mais.
Mais pourquoi pas, d'ailleurs? On a le droit d'être sur une autre planète. Ce qui m'interpelle, moi, dans le témoignage de Caroline, c'est qu'il a été diagnostiqué à 31 ans. C'est-à-dire, oui, qu'on peut passer une enfance comme ça, où finalement, on ne voit pas cette intelligence différente, cette différence tout court même.
Oui. Et alors, ce qui est peut-être important de dire aussi, c'est que vous avez utilisé le mot diagnostic pour haut potentiel. Ça n'est pas un diagnostic. C'est pas dans la classification des maladies au potentiel. Oui. Et d'ailleurs, les études ont montré que la plupart des gens qui ont un haut potentiel intellectuel n'ont pas plus de troubles psychiques que les autres. Ils en ont même pas forcément plus. La question qui est intéressante, c'est est-ce que le haut potentiel s'accompagne d'autres types de difficultés qui peuvent être de l'anxiété ou de l'anxiété sociale, qui peuvent être des difficultés dans les interactions sociales, qui peuvent être... on parle évidemment dans le livre aussi de ces traits que l'on retrouve parfois fréquemment chez les très hauts potentiels, qui peuvent être des traits de ce qu'on appelle le spectre autistique, c'est-à-dire pas l'autisme au sens de la maladie autistique, mais de ces formes très de pensée, d'intelligence qui va très loin dans le détail, qui est capable d'apprendre des choses de façon très profonde, de souvenir de plein de petites choses, avec souvent d'ailleurs une hypersensorialité, une attention très forte au bruit. Donc, il y a plein de choses différentes, mais on entend, madame, dans votre témoignage, qu'il y a quand même de la souffrance chez cet enfant. Et vous sauriez identifier ce qui le fait souffrir?
Il voudrait toujours que tout se passe bien pour tout le monde, pour son entourage, pour le monde, par exemple, pour le monde actuel. Il trouve que les choses sont difficiles.
C'est un idéaliste.
Beaucoup de questionnements. Ouais. Caroline, malheureusement, on ne peut pas rester beaucoup plus longtemps. Il y a énormément d'appels au standard de France Bleu. On vous embrasse, on vous remercie. Et ne restez pas seul aussi, ça c'est important. N'hésitez pas à vous à consulter, à aller voir des gens, à rester entouré pour en parler aussi. Donc, continue de le faire. Si vous avez un enfant avec une intelligence différente, un enfant à haut potentiel, venez nous rejoindre sur France Bleu au 0810 055 056.
Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
On parle aujourd'hui des enfants intellectuellement précoces ou surdoués, comme on disait autrefois. Ils sont tous aussi différents les uns que les autres. Certains ont des parcours jalonnés d'épreuves, d'autres des trajectoires plus douces. Certains sont passionnés par les sciences, les maths, la philo. D'autres les ont en horreur. C'est compliqué de faire une description de ces enfants intellectuellement précoces, comme on dit. Venez nous rejoindre pour en parler et nous raconter comment ça s'est passé pour vous à l'école, avec les copains, au sein de votre cellule familiale. 0810 055 056, avec aujourd'hui le docteur David Gourion, co-auteur avec Séverine Leduc de Éloge des intelligences atypiques aux éditions Odile Jacob, et avec Alexandra dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Vous avez une petite fille de 8 ans et demi, et à 4 ans et demi, on vous a dit que votre fille était précoce.
Oui, c'est ça. Elle était suivie par une psychologue qui a décidé de lui faire passer un test. Et on avait décidé de la faire suivre parce que ça se passait pas bien à l'école, justement. Elle voulait plus y aller. Elle nous demandait beaucoup, mais en dehors de l'école, à la maison. Et c'est ça qui a fait qu'on a décidé de lui faire passer un test.
Et qu'est-ce qu'il a dit, ce test, alors?
Alors, le test, oui, il est ressorti en précoce à 132 de QI. Et on a décidé, avec l'avis de la psychologue, de la faire sauter une classe qui était mal vue au niveau de l'école.
Comment ça, c'était mal vue? Ça veut dire quoi, ça?
C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle reste dans le bain et qu'elle suive les autres et qu'elle s'adapte et que ça passe bien.
Ah oui, que c'était à elle de s'adapter et pas à l'école de s'adapter.
C'est ça. Mmh. Sauf que, arrive un moment où tous les jours, à 6 heures du matin, on se retrouve à faire des devoirs, des exercices, parce qu'il y avait une demande énorme, énorme. On n'en pouvait plus. On a dit, c'est pas à nous de fournir tout ce travail, c'est vraiment au corps enseignant de fournir ce qu'elle attend.
Ça, c'est le vrai problème, David Gourion, de se dire, on sent bien qu'elle a envie de plus, mais l'école dit, non, il faut rester dans le moule. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure.
C'est ça, et cette petite fille a de la chance, parce que finalement, sa maman s'est battue pour que sa différence soit prise en compte et qu'on s'adapte. C'est aux adultes, à la société, à l'école de s'adapter.
Et ça va mieux aujourd'hui, Alexandra?
Ça va mieux. Elle ressent toujours cette petite différence d'avoir un an de moins, et du coup, elle dit, je suis la plus petite de la classe. Mais je pense qu'elle aime bien ça, elle est épanouie, elle va à l'école avec plaisir alors que c'était devenu très compliqué. Et mais on a toujours remarqué cette différence, elle a jamais joué aux poupons, aux jeux d'imitation, les petites cuisines, etc. Et c'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille, et maintenant elle est épanouie, elle regarde ce qu'elle veut à la télé. Tout ce qui est
reportage,
etc. Mmh. Et puis nous, on n'a plus à... Elle a une petite sœur, du coup, on devait s'occuper aussi de sa petite sœur, et on n'avait plus le temps de le faire parce qu'on devait s'occuper de sa demande en mathématiques, en découverte, enfin voilà, tout ça.
Mais oui, ça prend du temps, forcément.
C'est ça, et maintenant, on peut s'occuper de sa petite sœur.
Merci Alexandra d'avoir été avec nous, et on continue de parler de ces enfants différents, mais c'est tellement passionnant d'en parler aussi, cette différence, cette intelligence atypique, pour reprendre le titre du livre de notre grand témoin. On vous attend sur France Bleu, c'est On se dit tout, votre émission de confidence.
Des moments de vie uniques, des histoires universelles, on se dit tout sur France Bleu.
À quoi ressemble le quotidien d'une famille avec un enfant intellectuellement précoce, qui veut tout savoir, parler de tout, qui pose des questions, qui a soif d'apprendre, qui veut tout gérer tout seul? Comment on répond à ces questions? Comment l'école s'adapte à lui et pas le contraire? Et puis peut-être que aujourd'hui vous êtes grand, mais vous avez connu ça et c'était pas si simple que ça. Venez nous raconter votre parcours d'enfant précoce au 0810 055 056. C'est le sujet dont se dit tout avec le docteur David Gourion, co-auteur avec Séverine Leduc de Éloge des intelligences atypiques aux éditions Odile Jacob, et avec Camille en Provence. Bonjour Camille.
Bonjour.
Vous êtes une grande précoce.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Comment ça s'est passé quand vous étiez plus petite?
Alors, comme vous disiez, j'étais assez curieuse et j'ai appris, enfin je savais lire quasiment couramment avant de rentrer en CP. Mmh. Et ça a été compliqué parce que de là, on me laissait plus répondre, aux questions. J'avais plus de bons points, tout ce genre de choses. Du coup, je me suis mis un petit peu l'école à dos. Je voulais plus apprendre. À côté, en plus, il y avait pas vraiment d'amis. J'avais du mal à m'intégrer au jeu. Donc, j'ai vraiment eu du mal à avoir des bonnes moyennes, à m'intégrer au système scolaire jusqu'à quasiment au lycée où j'ai eu un déclic. Mais avant, ça a été compliqué, ouais.
C'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui a changé au lycée pour vous?
Au lycée, ça a été mes parents qui m'ont pris un prof à la maison de cours particulier de maths. Et il m'a aidé d'une autre manière. Il m'a appris les maths d'une manière différente. Et puis ça a collé tout de suite, et de là, ça m'a déclenché.
Et aujourd'hui, est-ce que cette précocité que vous aviez, cette curiosité en tout cas, elle est toujours présente, Camille?
Alors oui, j'ai un double bac plus 5 et je travaille, et à côté j'ai repris mes études de médecine, donc j'arrive à faire tout ça en même temps sans que ça me pose trop de problèmes.
Là, on entend dans le témoignage de Camille à quel point on peut vite glisser dans l'échec scolaire quand on est un enfant précoce, et que l'école veut pas forcément ouvrir la porte.
Absolument, et qu'il a fallu finalement de quelqu'un qui ait une technique, une méthode qui soit plus adaptée pour elle, pour que les choses se déclenchent, comme elle a dit, avec un parcours qui a l'air très impressionnant. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire après, alors?
Je pense quand même arrêter les études à un moment donné.
Oui.
Il y aura toujours cette envie d'apprendre, quand même.
Oui, toujours. Oui, toujours. C'est même un petit peu angoissant de se dire qu'après, il va falloir que j'arrête et que je reste dans mon métier. Mais après, il y aura plein de choses encore à apprendre.
Mais il y a des métiers où on apprend tout le temps.
Il faut trouver un métier dans lequel on n'arrête pas d'apprendre.
Voilà. Je pense que je vais le trouver.
Bien sûr. Mais la recherche, par excellence, sont des métiers où on continue d'apprendre tout le temps.
Oui, mais alors paradoxalement, je ne suis pas du tout mathématique, pas du tout, protocolaire. Je ne suis pas quelqu'un de carré qui aime les méthodes de recherche, les choses. Je suis plutôt côté littéraire,
Et intuitive. Science
humaine.
Et intuitive, comme dit David Gorion?
Sûrement, oui, du coup.
Vous la sentez bien, Camille, hein. Vous arrivez à avoir le profil psychologique.
En tout cas, votre témoignage est très intéressant et on vous souhaite un très joli parcours.
Merci beaucoup, Camille, d'avoir été avec nous. Et vous aussi, si vous avez envie d'en parler, si vous avez été précoce, si vous avez toujours cette soif d'apprendre, cette curiosité, cette intelligence atypique, différente, on va le dire, 0810 055 056 pour nous rejoindre. Et puis, on parle aussi des petits, des enfants, comment l'école peut s'adapter à ces enfants différents et pas le contraire. Venez en parler avec nous, vous avez la parole sur France Bleu.
Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Votre enfant est intellectuellement précoce. À quel moment vous vous en êtes douté? Est-ce que vous avez passé les fameux tests dont on a parlé au début de l'émission? Et puis après, qu'est-ce qui se passe dans la tête des parents? Il suffit de regarder sur Internet pour se poser en effet pas mal de questions. On y voit des mots comme souffrance, déscolarisation, ennui à l'école. Mais ça, c'était avant les livres, avant les blogs aussi, où pas mal de parents peuvent se retrouver et en parler. Et bien, on en parle aussi aujourd'hui sur France Bleu avec vous qui connaissez ça, les questions que vous vous êtes posées, les inquiétudes que vous avez eues, les difficultés rencontrées, mais aussi les surprises, les étonnements grâce à votre enfant différent. 0810 055 056 pour nous rejoindre avec le psychiatre David Gorion, co-auteur avec Séverine Leduc du livre Éloge des intelligences atypiques aux éditions Odile Jacob. Et nous sommes en Bretagne, à Brest, chez Solène. Bonjour Solène.
Bonjour.
Vous avez un fils qui a 26 ans aujourd'hui et jusqu'à ses 18 ans, c'était un peu compliqué. Vous étiez carrément perdu, on peut le dire.
Alors, en fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça. C'est-à-dire que jusqu'à ses 18 ans, je pense qu'il a pas mal camouflé et qu'il a eu une scolarité à peu près normale. Il était pas le meilleur, mais il était un peu au fond de la classe sans vraiment se manifester. Et il passait comme ça jusqu'à son bac. Arrivé au baccalauréat, au moment où on doit faire des choix dans la vie, c'est-à-dire des orientations après le bac, là, il a vraiment montré sa souffrance et il a montré son incapacité à savoir ce qu'il voulait et là où il voulait y aller. Donc, il a fait des choix qui, à chaque fois, étaient différents. Il a changé d'orientation, il est parti en voyage, il est revenu en souffrance, etc. Et c'est à partir de ce moment-là où, effectivement, il a demandé de l'aide. Et jusqu'à présent, il ne demandait rien du tout. Et il a été confronté à certain nombre de psychologues qui, à chaque fois, me disaient « Votre fils est très intelligent, mais on ne disait rien d'autre ». Donc, il n'y avait pas d'explication et lui se sentait vraiment très différent. Il avait peur d'être fou, il avait peur de ne pas être normal. Et tout ça, c'était lié à une hypersensibilité, en fait, exacerbée, qui nous montrait que d'un autre côté, on voyait bien qu'il avait une intelligence aussi importante. Et voilà, donc on était vraiment dans une impasse. Et le jour où le premier mot « hypersensibilité » est arrivé, là, on s'est dit « il y a quelque chose d'intéressant ». Et le mot hypersensibilité a entraîné ensuite la découverte de haut potentiel, qui effectivement était une révélation pour lui, parce que quand on a commencé à lire des livres autour de ce sujet et commencé à rencontrer des professionnels qui s'occupaient vraiment de cette particularité, là, il se sentit, exister comme d'autres personnes et pouvant effectivement tirer parti de ces différences.
C'était plus un problème.
C'était plus
un problème. Ça devenait au contraire un atout même.
Alors, ça devenait un atout, sauf qu'il faut pas se leurrer. L'hypersensibilité, elle est là à vie. C'est-à-dire qu'une personne qui a ce type de ressenti pourra passer toute sa vie avec cette difficulté. Il faut juste l'apprivoiser, la connaître et surtout tirer parti de ses talents, parce que cette intelligence amène énormément aussi de talents à côté.
L'hypersensibilité, David Gorion, ça revient souvent, hein. C'est souvent lié à ces intelligences atypiques dont vous parlez dans le livre.
Oui, absolument. Et alors, comment elle se manifeste justement, cette hypersensibilité chez votre fils?
Alors, c'est une hypersensibilité, je pense, d'hyperconscience. C'est-à-dire qu'il a vraiment une très grande conscience de tout ce qui se passe autour de lui, bien plus forte que n'importe qui. Donc c'est un ressenti personnel, ça ne veut pas dire qu'il a une vérité, mais il a au moins un ressenti particulier. Il a une très grande empathie, donc ça veut dire aussi que ça peut l'épuiser d'être en relation avec les autres. Et c'est aussi justement une hypersensibilité sonore, parce que bien souvent il y a un sens qui prédomine chez les hypersensibles, un sens qui est plus fort que les autres et pour lesquels c'est peut-être plus difficile, mais en même temps il y a plus de talent. Donc lui par exemple, je pense que c'est plus l'oreille, donc il a des grands talents de musique, mais voilà, il a des grandes difficultés aussi quand le son est trop fort. Et du coup, il est amené justement à devoir, je pense, s'économiser d'une certaine manière et à mettre un petit peu entre parenthèses les relations sociales.
C'est pas dangereux, ça, de s'écarter de ces relations sociales ?
Ce qui est intéressant, et d'ailleurs on développe beaucoup cet aspect-là dans notre livre, c'est la frontière qui est poreuse entre haut potentiel et ces formes ultra-légères du spectre autistique, et on peut retrouver justement de l'hypersensorialité, des difficultés dans les interactions sociales, contrastant avec une très grande intelligence, mais un sentiment d'être en décalage avec les autres, de pas bien comprendre tout ce qui est implicite, de pas bien comprendre le sentiment que les gens sont très superficiels au fond et avec une pensée qui est très profonde et qui va plutôt s'intéresser aux détails ou à des situations. Et en fait, il y a beaucoup de recherches actuellement sur cette question de la porosité de la frontière entre haut potentiel et forme extrêmement light du spectre autistique. On retrouve quand même des points communs et parfois d'ailleurs une forme de souffrance commune dans la difficulté d'être au monde, dans la difficulté de se sentir différent, de se sentir comme parfois certains patients me disent, j'ai l'impression d'être un extraterrestre. Et en fait, ça les rassure beaucoup quand on leur dit, en fait, vous n'êtes pas du tout seul. Il y a beaucoup d'autres extraterrestres. On fait tous partie d'ailleurs de la même, on est des êtres humains avant tout. Mais des gens qui vivent les choses, qui vivent le monde de la même façon que vous, avec ces mêmes différences, il y en a beaucoup et on peut vous aider.
En tout cas, on voit dans votre témoignage, Solène, et on l'entend, hein, que vous êtes bien renseignée, que vous l'accompagnez du mieux possible, votre fils, aujourd'hui. Ce qui n'a pas forcément été le cas avant, puisqu'il n'y avait pas toujours le bon mot approprié. Solène, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et la dernière partie dont on se dit tout, non, l'avant-dernière, on prend le temps, hein, arrive dans un instant. Il nous reste 20 minutes d'émission, donc rejoignez-nous, vous aussi, sur France Bleu. On parle aujourd'hui des enfants à haut potentiel, des enfants aux intelligences atypiques, ou les adultes aussi, ça marche.
Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
Les enfants précoces à haut potentiel, c'est le sujet dont se dit tout et c'est vous qui venez nous en parler parce que c'est votre histoire, qu'à votre époque on parlait pas forcément de haut potentiel, il y avait peut-être pas non plus de suivi avec l'éducation nationale. Comment vous l'avez vécu? Venez nous rejoindre au 0810 055 056 et puis c'est peut-être aussi l'histoire de votre enfant. Est-ce que c'est une chance? Est-ce que vous trouvez que c'est lourd à porter? Est-ce que c'est déstabilisant parfois? On en parle avec notre grand témoin, le psychiatre David Gourion, co-auteur du livre Éloge des intelligences atypique chez Odile Jacob, et avec Eric en région Occitanie. Bonjour Eric.
Oui, bonjour à tout le monde.
C'est
bonjour.
Bien d'avoir un enseignant parce que oui, voilà, on le disait, on l'a entendu dans le témoignage, il y a beaucoup d'enfants qui nous ont parlé de difficultés à l'école alors qu'ils avaient ce haut potentiel. Comment vous faites, vous, en tant qu'enseignant, quand vous repérez un enfant différent?
Alors, je peux vous dire que c'est très difficile parce que nous sommes confrontés dans des classes où on a des élèves, j'allais dire, entre guillemets, classiques. Et puis, de temps en temps, on a un élève qui est EIP, mais qui est mélangé avec des élèves qui sont dyslexiques, dyspraxiques. Parfois même, j'ai eu les quatre cas avec un autiste en plus dans la classe. Et je dirais, nous ne sommes absolument pas formés pour ce genre d'enfants.
Vous aimeriez être formé? Vous faites remonter l'information parfois?
On fait remonter les informations, mais si j'avais un message à lancer aux parents qui ont des enfants qui sont en difficulté, quel que soit leur cas, c'est pas nous, enseignants, qui allons pouvoir faire bouger les choses. C'est eux.
C'est-à-dire qu'un enseignant tout seul, oui, il ne peut pas prendre la décision, ça doit remonter plus haut.
Alors, c'est un vrai sujet que vous soulevez, monsieur. Moi, d'abord, il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance que nous sur la formation des enseignants, sur, vous avez parlé des 10, hein, toutes les dyslexies, etc., de l'autisme, des enfants différents, des enfants à haut potentiel. Donc, il y a un vrai travail à faire pour la formation. Mais en attendant que ça se mette en place, parce qu'on sait que c'est long et difficile, Je vous donne un petit truc. Vous pouvez demander, lorsque ces enfants, souvent ces enfants sont suivis par des psychologues ou des psychiatres, vous pouvez demander si le psychologue ou le psychiatre responsable de l'enfant accepterait de venir faire un petit, pas un cours, mais une petite formation d'une heure ou deux aux différents enseignants de votre établissement. Moi, ça m'est arrivé de le faire. On le fait en général avec plaisir quand on arrive à trouver un peu de temps. Et à défaut d'une formation qui est intégrée, qui devrait l'être d'ailleurs dans votre parcours, eh bien au moins vous pouvez avoir cette formation et in situ avec le professionnel qui s'occupe de l'enfant que vous avez dans votre classe, ça peut être assez chouette. Et on le fait parfois devant les autres enfants qui peuvent être très intéressés aussi d'apprendre quelque chose. Je crois, on parlait de l'inclusion, de la diversité, de la différence. Je crois que les enfants sont très curieux. Et je pense que ça réduirait beaucoup aussi ces problématiques de harcèlement scolaire si on apprenait mieux aux enfants, si on les formait aussi sur toutes ces formes de différence.
Et Eric, est-ce que vous êtes au courant quand vous avez un enfant, on parlait des enfants 10, des enfants à haut potentiel, un enfant autiste, est-ce que ça, vous l'avez l'information dès le début de l'année? Alors, ou est-ce que vous le découvrez?
L'information, je l'ai toujours dès le début dès la rentrée des classes. On l'a. Après, la difficulté que nous, on peut rencontrer, c'est gérer ces enfants qui peuvent être 4, 5 en classe parmi 31 élèves. Et ce que disait le médecin, je suis entièrement d'accord avec lui, c'est vrai que former les enfants à cela serait une bonne chose. Maintenant, moi, je dirais aussi aux parents, punaise, descendez dans la rue, faites-vous entendre.
Ouais.
Il y a déjà tellement d'énergie aussi à mettre.
Très juste, vous avez raison, il faut faire bouger les choses, bien sûr.
Mais on était ravis de pouvoir ouvrir cette discussion avec vous et pas taper sur l'éducation nationale. Il y a forcément des réponses, il y a forcément des choses à faire et c'est aussi important d'avoir votre parole, Eric. Merci d'être venu sur France Bleu. Et dans un instant, c'est la dernière partie dont se dit tout. On parle de ces enfants à haut potentiel, ces enfants précoces, ces enfants aux intelligences atypiques. 0810-055-056 pour nous rejoindre.
Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
Et on se dit tout sur les enfants qu'on appelle intellectuellement précoces, à haute potentialité. Quand on était plus jeune, on disait les enfants surdoués, les petits génies. On a laissé un petit peu ce mot de côté et on en parle avec vous et notre grand témoin, le docteur David Gourion, co-auteur avec Séverine Leduc du livre « Éloge des intelligences atypiques, pas comme les autres, plus que les autres ». C'est chez Odile Jacob et nous partons maintenant en Dordogne chez Céline. Bonjour Céline.
Bonjour.
Votre fils de 12 ans vient d'être diagnostiqué précoce.
Oui, il y a 2 semaines que l'on sait. Parce qu'en fait, quand il est rentré, donc là, il est en 5e actuellement. Quand il est rentré en 6e, il avait déjà manifesté des refus d'aller au collège ou comme quoi il se sentait pas bien. Et nous, on avait mis ça sur le compte du passage de l'école primaire au collège, et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément pris cela au sérieux. Et en 5e, dès le début, dès le premier jour de la rentrée, il a manifesté des angoisses, des maladies fictives, parce qu'enfin, elles n'existaient pas, ces maladies, mais il arrivait à se provoquer des maux de ventre ou des maux de tête. Et puis, il nous répétait qu'il s'ennuyait, qu'il n'avait pas envie d'y aller, que personne ne le comprenait. Et là, en fait, on l'a pris au sérieux, on l'a amené voir un psychologue, une pédopsychiatre, et ensuite la psychologue scolaire a été avertie et c'est elle qui lui a fait passer les tests et qui nous a dit qu'il était enfant précoce.
Comment vous avez réagi, Céline? Vous dites ouf, ça va, tout va bien, ou oulala, c'est peut-être le début de d'autres difficultés?
C'est très difficile parce qu'en fait on se sent complètement démuni, on ne comprend pas ce qui arrive à l'enfant. Jusqu'à présent, il avait toujours été un enfant plein de vie, qui adorait l'école. Et il est vrai que depuis tout petit, on l'avait mis dans des classes double niveau. Donc lui, il était complètement à sa place parce qu'il apprenait tout ce qu'il voulait et plus. Et au collège, il s'est retrouvé dans des classes uniques. D'un seul niveau. Et à partir de là, il a manifesté un mal-être. Et il a toujours été très en avance sur plein de choses, que ce soit la motricité, le langage, sur plein de choses. Mais bon, voilà, pour nous, c'était un enfant facile. Mmh. Et là, on s'est senti démunis parce qu'on n'arrivait pas à comprendre pourquoi il était si mal dans sa peau, pourquoi il était aussi triste, pourquoi il avait plus envie. Ça aurait été un adulte, je l'aurais qualifié de dépressif. Je comprenais vraiment pas ce qui lui arrivait. Et là, maintenant qu'il y a des mots de poser, Oui, ça va, c'est un mieux, mais je me dis, voilà, qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant pour qu'il se sente encore mieux et qu'il y arrive, parce que moi, ce que j'appréhende, c'est ses crises d'angoisse qu'il manifeste et son refus d'aller au collège.
Comment on peut l'aider, David, Céline, là, est-ce qu'on peut répondre à sa question? Qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'on a mis ce diagnostic? C'est tout récent. Hein.
Oui, alors c'est pour ça que tout à l'heure j'insistais sur le fait que ça n'est pas un diagnostic au potentiel, en fait. Et il faut pas faire l'économie de diagnostic. On peut avoir un haut potentiel intellectuel et avoir un trouble anxieux. On peut avoir un haut potentiel intellectuel et avoir une période dépressive ou avoir des difficultés d'estime de soi. Donc il est très important, c'est très important de noter le haut potentiel intellectuel, mais c'est très
mais
important
c'est
aussi, et ça nécessite un effort de pas tout expliquer par ça et de dire peut-être qu'il faut des interventions spécifiques sur l'anxiété ou sur l'estime de soi, parce qu'au fond le plus important pour un enfant, pour un adulte, c'est pas le QI, c'est pas tout ça, c'est l'estime de soi. Le plus important pour cet enfant, ce sera l'estime de soi, et donc s'il y a des choses à prendre en charge, il faut l'aider.
Moi j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Céline, on a pris notre fils au sérieux, toujours
oui.
Prendre son enfant au sérieux, quel que soit son âge, quand il montre des difficultés, quand il a envie d'en parler aussi.
Absolument, absolument. Vous savez, on a l'impression que parce que les jeunes sont jeunes, justement, tout devrait aller bien. Et en réalité, non, c'est dans les périodes d'ailleurs de l'adolescence, entre 15-20 ans, que les périodes de fragilité psychique sont les plus importantes. Vous savez, le suicide est la deuxième cause de mortalité chez 15-30 ans. Donc on a vraiment un vrai intérêt, une souffrance. Bon, faut pas surdramatiser, mais faut quand même prendre au sérieux. Il faut pas hésiter à solliciter un professionnel, avoir un avis et puis mettre en place des choses.
Ouais, et puis parfois c'est plus facile de parler à un professionnel extérieur qu'à ses parents aussi.
Absolument,
c'est vrai.
Absolument.
Merci beaucoup Céline d'avoir été avec nous sur France Bleu et on souhaite plein de belles choses à votre fils de 12 ans. David Gourion, merci d'avoir été notre grand témoin.
Merci.
Je rappelle que vous co-signez avec Séverine Leduc Éloge des intelligences atypiques et ce sous-titre Pas comme les autres, plus que les autres. Très joli d'ailleurs.
Merci.
C'est chez Odile Jacob et il y a plein d'infos pour les parents, pour les enfants, peut-être aussi qui ont envie de le lire, pour les professionnels de l'éducation et c'est vraiment bien fait. Et puis on parle aussi beaucoup d'autisme. On aura peut-être l'occasion de refaire une émission sur le sujet. Merci à vous.
Un grand merci à vous.
N'hésitez pas, si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez bien sûr la réécouter en podcast, hein, comme tous les numéros dont se dit tout. C'est sur notre site francebleu.fr. Et puis si vous connaissez l'émission, vous savez que chaque jour, on ouvre une petite fenêtre différente avec un thème très différent d'un jour à l'autre. Demain, on parlera d'amour, de sexualité aussi, puisqu'il sera question de la vie amoureuse des seniors. Ce sera donc demain, même heure. Je compte sur vous pour le rendez-vous sur France Bleu.